O café.
Comment protéger la vie sauvage? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec notre invité Hugues Akpona, directeur des AWF, la Fondation africaine pour la faune. Bonjour Monsieur Hugues.
Bonjour.
En République démocratique du Congo, les animaux sauvages sont menacés de disparition. Leur habitat est souvent détruit et on les capture pour alimenter divers commerces, alimentation des eaux, des cirques, commerce de leur fourrure, de l'ivoire, de leur chair. Les activités telles que le braconnage, le trafic ainsi que la chasse rendent ces animaux vulnérables. Alors que faire pour protéger la vie sauvage en République démocratique du Congo? Monsieur Hugues, d'abord quand on parle de la vie sauvage, de quoi s'agit-il?
Oui, quand on parle de la vie sauvage, d'abord, bonjour aujourd'hui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. C'est toujours un plaisir de passer sur votre émission. Quand on parle de la faune sauvage, c'est l'ensemble des espèces, hein, des espèces qui vivent en milieu naturel et qui ont une certaine importance pour les populations et sur lesquelles s'exerce un certain nombre de pressions dues aux facteurs anthropiques et à d'autres facteurs comme le commerce illégal, un peu de l'ivoire, et des produits issus de ces animaux.
Voilà, donc quand on parle de la vie sauvage, on voit les animaux, directement les animaux.
Oui, les animaux, et pas seulement les animaux, bien évidemment, les animaux ne vivent pas dans un espace dénudé, ils vivent dans un espace où on a la flore, aussi qui sur laquelle s'exerce un certain nombre de pressions.
Voilà, et ces animaux, aujourd'hui, et voilà, la vie sauvage en général est menacée. Quelles sont, d'où proviennent ces menaces?
C'est vraiment une très bonne question et je pense d'abord que, comme je l'ai déjà dit sur cette émission, ces espèces ne sont pas une ressource inépuisable, hein, parce que vous constatez que autant que nous sommes, nous avons une durée de vie sur Terre, une espérance de vie qui varie selon le continent et selon les circonstances de la vie dans lesquelles nous évoluons. Donc la faune et la flore ne sont pas des ressources inépuisables. Pour donner quelques statistiques, quand vous prenez les éléphants, on a constaté que entre les années 60 et aujourd'hui, on a perdu près de la moitié de la population d'éléphants. Près de la moitié, 50%, on est passé d'environ 1 million d'éléphants à environ 450 000. Il en est de même pour les lions, où on est passé d'environ 200 000 individus à environ 25 000 qui existent actuellement. Et la même chose pour le rhino, où nous sommes passés d'environ 65 000 à 5 000. Donc, il y a cette forte pression qui s'exerce et les causes sont nombreuses. D'abord, il faut dire que ces animaux ont une reproduction lente. Quand on prend l'éléphant, il faut qu'une femelle ait environ 13 ans. Même chose pour le bonobo avant de pouvoir être gestante. Mmh. Et c'est environ tous les 4 à 5 ans qu'elle peut se reproduire et donner naissance à un individu, un bébé. Vous imaginez comment ce processus est lent pour la reproduction et la reconstitution de ces populations.
C'est le cas pour le bonobo aussi, vous avez dit.
Bien évidemment. Alors, il faut dire la cause principale, c'est que ces animaux sont prélevés à une vitesse supérieure à leur capacité de reproduction. Et ça cause un décalage, un gap important dans la population existante et ainsi un certain nombre de menaces. Et il faut aussi dire que le problème n'est pas seulement environnemental, parce qu'on a plein de menaces, puisque de plus en plus ce trafic devient très organisé, avec beaucoup d'enjeux économiques autour, avec des acteurs insoupçonnés, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et devient aussi un fléau qui affecte un peu la paix, la sécurité, le développement économique. Pour donner un exemple, quand vous prenez plusieurs pays africains qui ont basé leur économie sur le tourisme, plus il y a donc ce braconnage, plus il y a ce trafic illégal d'espèces d'animaux, plus moins ils reçoivent de devises par rapport à ce tourisme et moins ils ont la capacité donc de financer leur développement pour le bien de leur population. Donc voilà un peu les causes. En résumé, les causes qui peuvent justifier cette pression énorme sur ces espèces.
À part les éléphants, les rhinos, les bonobos, y a-t-il d'autres espèces qui sont menacées?
Bien
évidemment. Aujourd'hui.
Bien évidemment, nous avons le rhino noir, nous avons le bonobo dans notre contexte, nous avons l'éléphant de forêt, nous avons l'éléphant de savane aussi qui est assez menacé, nous avons les lions qui deviennent aussi de plus en plus menacés, et nous avons aussi d'autres espèces de flore qui sont aussi menacées, hein, que nous connaissons très bien dû à la surexploitation donc de ces ressources pour des raisons de concessions forestières, etc.
Voilà, autant des raisons qui font que la vie sauvage soit aujourd'hui menacée. Vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez participer à cette émission, appelez au 081-890-6394, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alors, est-ce qu'on peut, à part les braconniers, est-ce qu'on peut dire qu'il y a que les braconniers qui menacent beaucoup plus ces espèces sauvages?
Non, pas seulement les braconniers. D'abord, il faut dire les braconniers interviennent pour satisfaire une demande. Ça veut dire donc que parler d'acteurs de menace ne serait vraiment aborder la question dans son ensemble, y compris donc tous ceux qui incitent ces braconniers à aller en brousse pour tuer illégalement ces animaux.
Qui généralement les envoie?
Alors, pour des besoins alimentaires au niveau local. C'est la population en général des grands centres urbains qui ont besoin
de la viande
de brousse.
Oui.
Et au niveau international, il y a plusieurs autres pays, hein, comme surtout les pays au niveau de l'Asie, etc., qui demandent une forte demande d'ivoire. Il faut dire que l'ivoire est de leur culture, hein, depuis.
Qu'est-ce qu'ils en font? Ils fabriquent.
Ils fabriquent beaucoup d'objets d'art. Ça entre dans la culture, dans les aspects spirituels aussi, où certaines parties d'animaux sont utilisées pour des besoins de médecine traditionnelle, des perceptions aussi locales en matière de spiritualité, et ça fait l'objet d'un commerce assez important. Donc nous avons cette pression qui vient et de l'extérieur et de l'intérieur et qui facilite un peu l'augmentation de la pression sur ces différentes ressources.
Il y a certains qui vont les attraper pour amener ces animaux dans les parcs, par exemple, les zoos.
Oui, ça c'est un type de conservation qui est connu. Ça c'est la conservation ex situ, c'est-à-dire hors du site habituel de vie de l'animal.
Est-ce que c'est une menace, non? Est-ce qu'on peut parler d'une menace à ce moment-là?
Oui, est-ce que je ne pense pas que ça puisse être constitué comme une menace au même titre que le braconnage? Si les conditions donc d'extraction de ces animaux pour des zoos suivent les normes et les règles requises en la matière.
Un auditeur en ligne, Gabriel, il nous appelle de Kikwit dans la province du Bandundu. Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, d'abord je remercie la radio Capi et l'invité pour les sujets tant importants que vous avez choisis pour aujourd'hui. Ma préoccupation est la suivante. Lorsque j'apprends souvent de la protection de la faune et fauve, souvent je n'entends pas parler de la protection des poissons. Mais ils sont aussi en milieu sauvage, non, bien qu'aquatique. Alors je voudrais que l'invité explique un peu pourquoi l'accent n'est pas mis dans ces secteurs-là, mais aussi très rarement des espèces végétales aussi. On ne parle que des animaux, or que dans l'habitat des animaux, ils se nourrissent aussi des espèces végétales. Et qu'est-ce qu'il en parle? Comment peut-il nous expliquer? Merci.
D'accord, merci. Soupi Nyembo de Kalima, dans la province du Maniema, bonjour.
Bonjour, Jébi, bonjour à tous. J'ai une seule préoccupation, monsieur Jébi Daniel, parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un léopard ou un éléphant. Mais je voulais demander auprès de notre invité pourquoi seulement les parcs se retrouvent à d'autres provinces et pourtant ici chez nous, en province du Maniema, on n'a pas même un parc. Voilà un peu ma préoccupation.
Voilà, Soufi n'a jamais vu un léopard ni un éléphant. D'après lui, il n'y a pas de parc dans là où il est, dans son milieu, à Kalima. Monsieur Higa, qu'est-ce que vous pouvez dire à ses auditeurs?
Ok, merci pour ces auditeurs. Je commence par Soufi. Je pense que vous dire que vous n'avez pas vu un léopard ni un éléphant depuis votre naissance ne fait que justifier notre lutte permanente pour la protection des espèces. Ça suppose donc que vous êtes conscient, vous êtes un indicateur palpable de la perte de cette biodiversité. Et c'est la résultante de toutes les menaces qui pèsent sur ces espèces, qui font que ces espèces, d'une manière ou d'une autre, sont obligées d'être beaucoup plus craintives envers l'homme, sont obligées de se réfugier là où elles retrouvent un certain calme et une certaine paix pour prospérer, pour se reproduire. Mais je peux vous dire quand même qu'il existe encore des léopards, il existe encore des éléphants. Moi, personnellement, j'ai déjà vu un éléphant. Et je pense que de plus en plus, avec les actions que nous menons, cette population d'éléphants et de léopards pourra plutôt se reconstituer, améliorer donc son habituation envers l'homme et puis faciliter un certain nombre d'observations. Quant à votre seconde question liée à l'existence de parcs dans votre zone, en réalité, je pense que ce n'est pas une ségrégation que d'avoir des parcs à des endroits ou de ne pas en avoir à d'autres endroits. Ce qui est faisable, c'est déjà que qu'on peut justifier qu'il y a une certaine abondance en espèces, une certaine diversité à protéger, et puis la suite logique est qu'on puisse quand même préserver l'habitat pour en faire un parc pour donc la stabilité de ces différentes espèces. Et donc, si vous pensez que dans votre aire, il y a une possibilité, il y a une richesse, une abondance en espèces, alors on pourrait enclencher le processus pour aller progressivement vers la mise en place d'une réserve qui puisse quand même permettre d'assurer le développement convenable de cette vie sauvage. Quant à Monsieur Gabriel, que je remercie aussi, qui n'entend pas parler de protection de poissons ou d'espèces végétales, en réalité, ce sont des thématiques qui sont aussi souvent abordées, mais vous savez, un peu, c'est vrai que le focus est mis sur la plus grande priorité, en fait. Ce qui frappe beaucoup plus à l'œil, ce qui est prioritaire en matière d'intervention, en matière de besoin d'intervention. Et actuellement, plusieurs investigations sont faites et sur les poissons et sur les plantes. Et cette responsabilité est partagée en différents ministères sectoriels pour la préservation dans le cas des poissons, donc le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, qui devrait s'occuper de toutes ces questions aussi. Et au niveau des espèces végétales, nous avons aussi un certain nombre d'espèces qui sont menacées et sérieusement menacées au niveau national, sur lesquelles il y a quand même plusieurs interventions qui se font. Et quand vous voyez, par exemple, dans certaines provinces, surtout à l'est, il y a déjà de la reforestation qui se fait à partir de ces espèces. Donc, réellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de discours autour de la faune, puisque le problème se pose réellement avec acuité à ce niveau, mais considérer que tout est pris dans son ensemble pour la conservation de ces espèces, et y compris leur habitat, que constituent donc toutes ces espèces végétales.
Bien, comment protéger la vie sauvage? Hugues Akpona, directeur de la Fondation africaine pour la faune, est notre invité. Vous voulez participer? Écrivez-nous, appelez plutôt au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
Comment protéger la vie sauvage? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Hugues Akpona, directeur de la WWF. Olivier nous appelle des Colouésies dans la province du Katanga. Bonjour Olivier.
Bonjour Jeudi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
En fait, mon intervention part d'un constat amer qui a été constaté dans l'un des pays africains. Monsieur Jeudi, comment imaginer que lors des festivités d'un certain chef d'État, on peut se permettre d'abattre deux éléphants et plusieurs autres grands mammifères de la forêt? Alors, vous comprendrez avec moi qu'il y a le problème qui gangrène même la population africaine n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui.
Oui, Olivier, vous parlez du Zimbabwe, on avait tué deux éléphants là-bas?
Exactement. Vous voyez un peu ça, monsieur Gédi. Alors, je disais, ma question, vous savez, monsieur Gédi, ici chez nous, à Konezi, nous sommes à peu près à 30 km de Lualaba. Il se peut qu'il y a eu quelques fois où il y a été enregistré des cas de où les éléphants ont quitté le parc pour aller dans des villages et se sont mis à dévaster les plantations de paisibles citoyens. Alors, je demande à l'invité, dans un cas pareil, où des éléphants se mettent à dévaster les champs et autres là, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en jeu pour préserver un peu la vie de ces paisibles citoyens? D'autant que la préservation de la faune ne doit pas être un objet qui scandalise les populations. Merci, Judy.
Bien, merci, Olivier. De Colézy, Trésor nous appelle des Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, monsieur l'invité.
On vous écoute, Trésor.
Oui, j'ai juste une question à l'invité. J'aimerais un peu savoir. Vous parlez de la protection de la vie sauvage. Est-ce que tout le ministère qui assure la protection des animaux et consorts, est-ce qu'il supervise comment se font la guerre? Puisque la guerre se fait dans un milieu sauvage. Est-ce que par des guerres, on n'est pas en train de détruire les forêts et tuer les animaux? Je veux un peu savoir, est-ce qu'ils mènent des investigations et quelles sont les statistiques qu'ils ont déjà obtenues en rapport avec ça?
Bien, merci Trésor de Lumbashi, Monsieur Hugues.
Merci. D'abord, l'impact de la guerre sur la faune, c'est assez clair. Vous savez, quand on est en circonstance de guerre, il n'y a pas forcément une surveillance qui est accrue, il n'y a pas forcément un suivi qui est fait de manière permanente. Et cela peut, il y a aussi les populations qui sont perturbées, ce qui peut faciliter quand même un certain
un climat d'insécurité
et amplifier le braconnage. Je suis parfaitement d'accord avec vous et la question de savoir si le ministère en charge de cette question fait ce suivi et a des statistiques, je pense que cette question, je ne serai pas habilité à y répondre directement s'il reviendra peut-être au ministère de en charge de l'environnement de le faire. Toujours est-il quand même que des structures sont mises en place par ce ministère qui contrôle un peu, qui collecte ces statistiques et qui reçoivent un certain nombre d'appuis de la part des partenaires pour lutter contre ce fléau et s'assurer que la conservation de la vie sauvage se fait dans des conditions requises et dans un climat apaisé, dans une certaine sécurité qui facilite forcément la mise en œuvre de nos actions de conservation. Pour la question d'Olivier, du Katanga, oui. les conflits hommes-éléphants, ce sont des conflits qui existent depuis le bon vieux temps.
Surtout au Katanga, les éléphants quittent leur milieu pour aller détruire les champs d'autrui.
Oui, forcément. Je pense d'abord que scientifiquement, ça c'est pas moi qui l'ai démontré, mais la science a démontré que les éléphants ne reviennent que sur des endroits où ils avaient existé, où ils avaient quand même vécu, parce qu'ils ont une grande mémoire qui les amène à revenir sur leurs anciens espaces.
Donc on peut dire que c'est l'homme qui s'est rapproché, qui est allé occuper et rapprocher de l'habitat.
Je ne connais pas le contexte du Katanga, mais je pense quand même que c'est une hypothèse à explorer.
Oui.
Mais toujours est-il que dans le cas de ces conflits hommes-éléphants, il y a un certain nombre de méthodes pacifiques de gestion. Donc l'utilisation, par exemple, du piment, l'utilisation de la fumée, etc., qui sont des méthodes qui ont été démontrées et pertinentes et applicables dans nos contextes, un peu pour repulser les éléphants et aussi empêcher que ces éléphants ne viennent à l'intérieur. L'autre chose aussi, c'est que généralement à l'intérieur des aires protégées ou de l'espace des éléphants, si ces éléphants se déplacent vers un autre endroit, c'est général. On peut supposer que ces éléphants ne trouvent pas ce dont ils ont besoin, ce qui fait qu'ils migrent un peu vers les zones adjacentes pour quand même s'alimenter. Toujours est-il qu'il faut que ce genre de cas soit signalé aux services compétents qui s'occupent donc de la gestion de la faune, comme l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, pour quand même appuyer un peu, sensibiliser sur des différentes méthodes pacifiques de gestion qui peuvent être utilisées dans le quotidien de ces populations autour de ces aires où nous observons ces conflits hommes-éléphants.
Olivier nous dit, dans un pays africain, lors de la célébration, je crois, de l'anniversaire du chef de l'État, deux éléphants et des lions ont été abattus. Est-ce que c'est pas ce sont des espèces qui devaient plutôt être protégées qu'au lieu de les manger?
Naturellement, je suis parfaitement d'accord avec Olivier sur cet aspect, et c'est pourquoi ADOVF a son approche de conservation qui vise à travailler à plusieurs niveaux, donc pour stopper la demande d'une manière ou d'une autre, stopper donc le trafic et aussi stopper le braconnage, en fait, dans ces aires. Et ça appelle à beaucoup de conscientisation, à beaucoup de campagnes de sensibilisation pour que tous les acteurs, comme je vous disais déjà au début de cette émission, les acteurs autour du braconnage sont des acteurs signalement insoupçonnés qui méritent réellement une certaine méthodologie d'approche, une certaine méthodologie de
conscientisation. Donc derrière les braconniers, il y a les gens qui tirent les ficelles
Naturellement. Écoutez, c'est toute filière, comme toute filière économique. Mmh. Il y a toujours des
hommes d'affaires, des politiciens.
Naturellement, c'est forcément, ça doit exister dans la chaîne. Que voulez-vous, c'est une filière économique. Et quand on parle de filière économique, vous savez qu'il y a plusieurs acteurs qui interagissent et qui facilitent un peu le processus.
Il y a toujours des hommes en uniforme qui sont derrière.
J'ai pas des statistiques liées à cela.
Oui.
Je pense quand même qu'il y a plusieurs acteurs.
Il y a des acteurs insoupçonnés.
Il y a plusieurs acteurs qu'il faut quand même pouvoir approcher, pouvoir sensibiliser. Mmh. Soit ces acteurs ne sont réellement pas informés de la gravité de l'action, ou ces acteurs sont.
Mais du moment où ils se cachent, comment les approcher?
Mais il faut, c'est un peu cette lutte qu'il faut faire, à découvrir un peu qui se cache derrière, pouvoir diffuser l'information au large public, pour espérer quand même toucher le maximum d'acteurs dans cette filière, et espérer que cette demande soit réduite, et que ça cause une certaine réduction dans le trafic et aussi dans le braconnage au niveau du milieu naturel sur ces espèces d'importance économique et environnementale.
Christian nous appelle de Calémie, Timothée est à Arou. Christian de Calémie, bonjour.
Bonjour, Christian Mayembe depuis Calémie.
On vous écoute, Christian.
Oui, moi je voulais juste demander à l'invité, parce que à un certain moment nous remarquons que le ministère de l'Enseignement et plutôt de l'environnement donne certaines mesures à un moment comme ça d'arrêter la chasse sur l'exploitation forestière. Mais après quoi, vous allez voir, ce sont là les militaires qui entrent dans la forêt et qui amènent des gibiers, ou dans les marchés, vous allez voir qu'on voit les gibiers. Maintenant, nous demandons juste au ministère de l'Enseignement de poursuivre ou de continuer à faire les suivis de ce blocage-là, parce que ça a quand même un impact favorable aux animaux, pour que les animaux puissent un peu accroître. C'est ce que je voulais juste demander. Pourquoi le ministère de l'Enseignement, plutôt de l'Environnement, ne fait pas le suivi de son ordre? Merci.
Bien, merci. Timothée, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour. Timothée, bonjour. Oui. C'est Timothée de
Arou. Bonjour aussi à mes parents en Gwandi.
Oui, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Oui, je voulais juste poser d'abord une question à l'invité. Quelle est la situation de notre réserve de mangroves pour le moment? Et deuxième question, est-ce que la RDC en profite par ces richesses que nous réservons?
Bien, merci. À la situation de la réserve des mangroves. Bien, Monsieur Hugues, vous avez la parole.
Merci Christian de Calémie. Je pense que il y a vraiment un grand travail à faire dans l'application des lois dans nos pays, en Afrique en général, hein, parce que nous avons réellement beaucoup de lois qui ne sont pas forcément toutes bien appliquées ou toutes bien suivies. Il y a plusieurs normes qui existent et qui ne sont pas forcément suivies, et c'est dans ce sens aussi que les partenaires, et principalement ADOVF, essaient de travailler sur le renforcement de l'application des lois à travers donc des séances d'information.
Donc c'est un moyen pour protéger la vie sauvage, il faut commencer par la...
Forcément.
Par la loi, le respect des lois établies.
Tout à fait. On dit généralement que nul n'est censé ignorer la loi, mais généralement en Afrique, beaucoup ignorent la loi.
Oui.
Ça veut dire donc travailler pour protéger les espèces de faune et de flore signifie qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, apporter l'information auprès des acteurs clés qui en ont besoin. Donc diffuser ces différentes mesures qui ont été prises au niveau national pour protéger ces espèces et les apporter au niveau des acteurs clés qui participent à la chaîne, soit consciemment, soit inconsciemment. Et ça, c'est une activité que ADOVF essaie de mener dans ses sites d'intervention. Et même au-delà, nous travaillons avec les gouvernements au niveau de l'Afrique en général, et aussi au niveau de l'Asie, pour s'assurer que toutes ces mesures qui sont prises, que ce soit au niveau local, national ou international, sont donc mise en œuvre. Et c'est dans ce cadre que nous nous félicitons de la mesure que la Chine est en train de prendre actuellement pour interdire les entrées d'ivoire dans son pays pour une période donnée, histoire donc de marquer la collaboration qu'elle est en train d'initier avec African Wildlife Foundation et l'impact que African Wildlife Foundation, à travers WildAid, qui est notre bras armé pour la sensibilisation dans ces pays asiatiques, donc met en œuvre pour faciliter un peu, pour limiter un peu les dégâts. Et je pense que ces mesures doivent être aussi prises au niveau national, où chacun doit pouvoir diffuser les lois et les ministères sectoriels aussi, y compris le ministère de l'Environnement, doit pouvoir appuyer aussi l'application des lois et des mesures qui sont prises hein, pour peut-être interdire la chasse ou définir la période légale de chasse, etc. Ce sont des mesures qui doivent être suivies au niveau du terrain. Et je ne suis pas le porte-parole du ministère de l'Environnement, mais je pense quand même que la RDC est un vaste pays et puis il faut quand même plusieurs acteurs pour appuyer ce processus.
Bien, comment protéger la vie sauvage? Il y a Timothée qui a parlé de la réserve de mangroves.
Est-ce que la RDC en profite?
Oui,
je pense que d'abord, globalement, je dirais tout ce qui est réserve. Vous savez que toutes ces réserves ont une importance au plan environnemental, dans la purification de l'air, au niveau esthétique, au niveau médicinal, etc. Donc tout ce qui est réserve contribue déjà à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et je pense que à ce titre, on pourrait dire que la RDC en profite. Maintenant, est-ce que vous voulez parler de retombées monétaires? Est-ce que vous voulez parler d'autres types de retombées? Ça, je pense qu'il faut qu'on aille dans les statistiques au niveau de la gestion de cette réserve et des différents accords qui sont établis avec le gouvernement et aussi prendre l'avis des populations qui vivent autour de cette réserve pour mieux apprécier donc la tendance.
Pour protéger la vie sauvage, vous avez dit il faut une forte sensibilisation parce qu'il y a des acteurs insoupçonnés derrière le braconnage et certains trafics. Il faut également la loi, veiller à l'application de la loi pour protéger ces espèces menacées des disparitions. Monsieur Hugues Agpona, directeur de AWF, Fondation africaine pour la faune, merci et à la prochaine.
Merci. Je voudrais pour finir remercier toujours Radio Okapi pour cette collaboration et cet effort de diffusion de l'information auprès des acteurs clés. Je pense que ça contribue à la lutte commune de gestion durable des ressources. Et je voudrais finir aussi par remercier l'USAID, qui est notre partenaire de tous les jours, pour appuyer toutes nos idées, tous nos efforts de conservation.
Bien, merci, à la prochaine.
Merci.